Chapitre 2. Le bal avait un immense succès. Tony dut aller garer sa vieille Ford défoncée assez loin de la salle des fêtes. La plupart des places de parking du village semblaient déjà prises par des voitures somptueuses. Simon lui avait proposé de l'accompagner, mais elle avait refusé. Elle le regrettait à présent, soudain intimidée à l'idée de faire son entrée seule dans tout l'éclat de sa robe d'organdi bleu nuit. Sur la petite estrade, un orchestre jouait une valse à l'ancienne. Tony s'arrêta un instant sur le seuil. On aurait dit un bal comme on en voit dans les magazines chics. Elle rejoignit Phil Marshall, Simon et Mrs. Friedman postés devant le bar qui occupait tout un pan de mur.
« Vous êtes ravissante, ma petite !»
la complimenta Mrs. Friedman. Agatha, le visage crispé et l'air soucieux, passa près d'eux en virevoltant dans les bras de Charles Fraisse. Il y avait 3 jours qu'elle n'avait pas aperçu George. Qui plus est, George, qui lui avait promis la première danse, n'avait pas encore daigné se montrer. Elle jeta un coup d'œil à Tony. Rien ne valait décidément la jeunesse et la beauté, pensa-t-elle avec une pointe de jalousie. Les épaules blanches de la jeune femme émergeaient de flots d'organdi bleu et ses cheveux blonds étaient relevés sur sa petite tête. Jessica Fordyce se tenait elle aussi devant le bar au milieu d'un cercle d'hommes. Elle arborait un fourreau noir décolleté et sa crinière rousse chatoyait sous les lumières. La valse terminée, Agatha marmonna une vague excuse à Charles à propos de son maquillage, déclina l'invitation à danser de James, se glissa hors de la salle et inspecta les alentours. Les gens continuaient d'affluer en riant et bavardant. Toute la bonne société locale était de sortie. Ils parlaient haut et fort, portaient parfois des toilettes surannées, mais tous manifestaient une aisance dont Agatha, toujours consciente de ses origines modestes, était dépourvue. Elle décida subitement qu'elle ne pouvait plus attendre. Il fallait qu'elle sache ce qui était arrivé à George. Elle se dirigea en courant vers chez lui, malgré ses sandales, dont les brides commençaient à lui faire mal. La maison de George était située sur une butte qui surplombait le village. C'était une affreuse bâtisse de briques rouges, jadis habitée par un simple ouvrier agricole, et bien différente des jolis cottages de Carsley en pierre dorée des Cotswolds. Agatha frappa à la porte à coups redoublés. Seul le silence lui répondit. Elle se demanda s'il avait résolu de se dispenser de bal et s'était installé au jardin. Elle suivit le sentier qui contournait le pavillon et déboucha dans un champ de mauvaises herbes et de buissons échevelés. Visiblement, George ne perdait pas son temps à s'occuper de son propre domaine. En proie à une écrasante déception, Agatha se détournait déjà lorsqu'un reflet de lune fit scintiller un objet métallique à demi enfoui sous un tas de compost. Agatha s'approcha lentement, se pencha pour l'examiner et se redressa le cœur battant à tout rompre. C'était l'extrémité d'une jambe artificielle. Peut-être une ancienne prothèse qu'il avait pour une raison quelconque jetée dans le compost. Elle s'empara d'un râteau et commença à écarter les débris végétaux. Une autre jambe apparut, une jambe de chair authentique cette fois. Agatha tomba à genoux et, sanglotante, se mit à déblayer à pleine main le compost malodorant, exhumant peu à peu le corps de George, un sac sur la tête. Follement, Agatha espéra à l'espace d'une seconde qu'il s'agissait d'un autre que lui, mais elle se souvint immédiatement qu'aucune personne de sa connaissance n'était appareillée de la sorte à part lui. Elle chercha son pouls et ne trouva rien. Elle aurait voulu arracher le sac, mais la voix glacée de la raison, triomphant de son affolement, lui intima l'ordre de laisser ce soin à la police. Elle se releva en se maudissant d'avoir oublié son téléphone portable au fond de son réticule, à la salle des fêtes, ôta à la hâte ses sandales et s'élança à travers les rues inondées de la lumière du clair de lune, entre les maisons endormies sous leurs toits de chaume, effleurant à peine les petits pavés. L'orchestre achevait un morceau lorsqu'elle fit irruption dans la salle. Elle fonça tout droit sur Bill Wong, qui parlait avec James. George Marston a été assassiné.
Conduisez-moi. Je vous accompagne, proposa James.
Non, décréta Agatha. Reste ici et veille à ce que personne ne sorte. Procédez au tirage de la loterie. Pas un mot à quiconque.
Elle sortit précipitamment avec Bill.
Allons-y, décida Tony qui avait assisté de loin à leur échange. Il est arrivé quelque chose de grave. Agatha était blanche comme un linge et sa robe est fichue.
Avec Phil, Simon et Patrick, elle se rua sur les traces de Bill et d'Agatha. Arrivé au cottage de George, Bill, qui avait attrapé au passage sa tenue de policier dans sa voiture, décréta. «
Agatha, venez avec moi et indiquez-moi l'emplacement du cadavre. »
Tony et toute l'équipe attendirent anxieusement devant qu'Agatha vienne les rejoindre. Charles arriva en coup de vent.
« Est-ce qui s'est passé ?»«
C'est Georges, » gémit Agatha. « Je crois que c'est Georges. Il est mort, il a un sac sur la tête. »
Des voitures de police, certaines banalisées, vinrent se ranger devant le cottage. Les policiers commencèrent à isoler le secteur. L'inspecteur Wilkes s'approcha.
« Mrs. Raisin, Wong dit que vous avez découvert le corps. »«
Dans le jardin, derrière la maison, » répondit Agatha d'une voix rauque.
« L'agent Peterson va prendre une déposition préalable. Ne bougez pas. »«
Voulez-vous venir vous asseoir dans la voiture, Mrs. Raisin ? Vous avez subi un rude choc, » offrit Alice Peterson, une jolie brunette aux yeux bleus.
« J'aime mieux attendre ici, » répondit Agatha. « Je n'ai pas pu voir son visage. Ça pourrait ne pas être lui. »
« Je crois que Mr. Marston portait une jambe artificielle. En avez-vous remarqué une ?»«
Oui, la jambe de son pantalon était remontée. »
Le rouge à lèvres écarlate d'Agatha tranchait violemment sur son visage livide.
« Dites-moi juste ce que vous savez, » l'invita Alice.
Agatha vacilla légèrement. Charles s'avança et passa un bras autour de ses épaules. Elle communiqua ses maigres renseignements avec un profond sentiment d'irréalité. Il lui semblait que la voix qui sortait de sa bouche appartenait à une autre personne.
« Je suis allé chercher ma voiture, » intervint Charles lorsqu'elle eut achevé son récit. « Tu devrais aller t'y asseoir, Agatha, et vous aussi, Tony. Quand ils auront retiré le sac, il faudra bien que quelqu'un l'identifie. »
Ils attendirent en silence. Aucun des villageois ne vint. Curieusement, la nouvelle n'avait pas encore atteint la salle des fêtes et l'air nocturne résonnait toujours du faible écho des danses que jouait l'orchestre. Tony s'étonnait de ce que Mrs. Blugsby ne se soit pas déjà inquiétée d'Agatha. Mais Mrs. Blugsby, qui avait organisé la loterie pour le bal, était demeurée à son poste. Elle pensa qu'Agatha était en quête de George. Elle ne l'avait pas vu s'éloigner avec Bill et elle supposait que son équipe et ses amis l'avaient suivi pour la ramener. La nuit se traînait. Wilkes surgit enfin en réclamant quelqu'un pour identifier le mort.
« J'y vais !» déclara Agatha en s'extrayant de la voiture au milieu des protestations de ses amis. « J'ai besoin de vérifier de mes propres yeux que c'est bien George. »
Décision dont elle devait se repentir par la suite. Dans le jardin, une tente avait été tendue au-dessus du corps. Sous la lumière sépulcrale, des lampes halogènes dont on l'avait environnée se dessina le visage boursouflé et décoloré de George.
« C'est bien George Marston, » confirma Agatha d'une voix étranglée.
Wilkes la reconduisit à la voiture.
« Entrez chez vous, »
lui dit-il.
« Nous passerons vous voir demain matin. »
Mrs. Blugsby apprit la nouvelle avec horreur lorsqu'elle alluma la radio en préparant le petit déjeuner de son mari le lendemain matin. Elle se précipita dans le bureau du pasteur.
« Alf, c'est affreux. George Marston a été assassiné. »
« Quand ? Comment ?»«
Je ne sais pas. Je me demandais pourquoi Mrs. Raisin n'était pas revenue à la salle des fêtes. »
Mrs. Blugsby se reprocha d'avoir pensé qu'Agatha, n'ayant pu dénicher George, était simplement rentrée boudée tout à son aise chez elle.
« Il faut que j'aille voir si je peux faire quelque chose, » déclara-t-elle.
« Et mon petit déjeuner ?»
se récria son mari. Mais sa femme était déjà loin. La police avait barré la rue à l'aide d'un cordon juste avant le cottage d'Agatha pour tenir à distance les journalistes. Mrs. Blugsby se prévalut de son statut d'épouse du pasteur pour convaincre l'agent qui montait la garde de la laisser passer. Tony, toujours en robe de bal, vint lui ouvrir.
« Agatha est au salon, elle fait sa déposition, » chuchota-t-elle. « Il devrait bientôt en avoir fini avec elle. »«
Est-ce qu'on connaît les circonstances du décès ?» questionna Mrs. Blugsby. Tony secoua la tête.
« Mais Agatha dit qu'il est tout bonnement impensable qu'il soit tombé dans son tas de compost et s'y soit enterré tout seul ou se soit attaché un sac sur la tête. Il va falloir attendre une éternité. Si nous étions dans une série télévisée, il se précipiterait au labo et nous sortirait immédiatement les résultats. Agatha a dû leur retracer en détail son emploi du temps de ces derniers jours.
« Cela faisait un moment que je n'avais pas croisé Mr. Marston dans le village, » remarqua Mrs. Blugsby. La police devrait aller prendre des renseignements à la supérette. Je crois avoir entendu quelques femmes du village y demander des nouvelles de Mr. Marston, qui leur avait promis de venir faire de petits travaux chez elles et leur avait fait faux bond.
On sonna à la porte. Tony alla ouvrir en s'étonnant tout haut.
Une quadragénaire élégante se tenait sur le seuil, flanquée de l'agent Alice Peterson. «
C'est Mrs. Hilston, d'Oxford, la sœur de Mr. Marston. expliqua Alice. À la différence de son frère, Mrs. Ilston avait des cheveux bruns et n'était pas très grande. Ses yeux étaient tout gonflés d'avoir pleuré. Alice se rendit au salon, dont elle revint presque aussitôt suivie de l'inspecteur Wilkes, de Bill Wong et d'une policière. « Je souhaitais voir la personne chargée de l'affaire, » dit Mrs. Ilston. « Au commissariat, on m'a dit que je pourrais vous trouver ici. »
« Nous allons vous ramener au commissariat, » répondit l'inspecteur Wilkes d'un ton apaisant. « Je crois que deux de mes agents vous ont fait part de ces tristes nouvelles la nuit dernière. »«
Oui, et je ne comprends vraiment pas, »
gémit-elle.
« Mon frère était si populaire. »
Ils sortirent, la porte claqua derrière eux. Agatha se traîna hors du salon.
« Merci, Tony, vous pouvez rentrer chez vous maintenant. »«
Vous êtes sûre ?»«
Je me charge d'Agatha, » déclara Mrs. Bluxby avec fermeté.
Tony eut une hésitation. Elle avait envie de serrer Agatha dans ses bras pour la réconforter, mais ce n'était pas le genre de la dite Agatha.
« Je serai au bureau demain, » déclara celle-ci visiblement épuisée.
« Ouvrez un dossier sur George. » Mrs. Bluxby fit du thé et porta le plateau dans le jardin. C'était une orgie de couleurs. Rose rouge, blanche et jaune, delphinium, rose trémière, pensée, giroflée et une clématite dont les larges corolles pourpres s'épanouissaient en été et non au printemps.
Hodge et Boswell, les deux chats d'Agatha, batifolaient sur la pelouse bien tondue. Quelques nuages blancs effilés flottaient dans le ciel bleu.
En vieillissant, on se figure que tous les étés ont toujours été aussi radieux que celui-ci, et on oublie les jours de pluie, remarqua Mrs. Bluxby. Agatha fondit en larmes.
« Je ne veux pas vieillir, »
sanglota-t-elle.
« Vous n'avez pas d'âge, » l'interrompit Mrs. Bluxby.
« Allons, séchez-vous les yeux, buvez votre thé, allumez une de vos maudites cigarettes et réfléchissez. Quelqu'un a assassiné George Marston. »
Agatha obéit docilement.
« Je ne sais pas par où commencer, » dit-elle. « À votre avis, est-ce que cela peut être lié à sa carrière militaire ?»«
Ça me paraît avoir un caractère beaucoup trop personnel pour ça. »«
Quelqu'un du village ?»«
Peut-être. »«
Mais pourquoi ?»«
Eh bien, attelez-vous sérieusement à cette affaire, et moi, je prierai pour que vous parveniez à l'élucider. »«
Vous croyez en Dieu ?»«
Bien sûr. »«
Pourquoi ?»
Mrs. Bluxby posa sa petite cuillère et répondit doucement.
Au sein de ce monde imparfait, j'ai besoin d'avoir foi en une présence parfaite et immuable. Les humains tendent à diviniser d'autres humains qui, étant imparfaits, déçoivent leurs attentes. Il me semble parfois que chacun de nous porte en lui des aspirations spirituelles qui se trompent quelquefois d'objet. Autrement, pourquoi les gens voueraient-ils un culte à Hitler ou Elvis Presley, par exemple ?
Agatha éclata de rire, ses tourments intimes apaisés.
« Si les fans d'Elvis vous entendaient, ils vous mettraient en pièces. »«
Vous avez très peu dormi, » reprit Mrs. Bluxby. « Allez donc faire un somme. Je vais rester ici un moment. Allez, montez-vous coucher. »
Avant de se mettre au lit, Agatha ouvrit grand la croisée et jeta un coup d'œil dehors. Mrs. Bluxby était assise tranquillement, le visage tourné vers le soleil. Elle laissa la fenêtre ouverte, s'enfouit jusqu'au menton sous sa couette malgré la chaleur et s'assoupit.
Une demi-heure plus tard, le portable de Mrs. Bluxby sonna.
« Oui ?»
fit-elle en s'éloignant au fond du jardin.
« C'est moi, ton mari. Tu te souviens encore de moi ?»
tempêta une voix furibonde.
« Tu es toujours avec cette satanée bonne femme ? Et mon petit déjeuner, alors ?»«
Mets deux tranches de bacon et deux œufs dans la poêle, » expliqua patiemment Mrs. Bluxby. « Allume la cafetière et glisse deux tranches de pain dans le grille-pain. Je ne vais plus tarder. »
Elle coupa la communication et retourna s'asseoir. Au bout d'une demi-heure, elle monta voir Agatha qui sommeillait paisiblement.
« Je peux la laisser seule à présent, » se dit-elle. « Quand elle aura un peu repris le dessus, il sera temps de lui annoncer que son jardinier adoré couchait avec la moitié des femmes du village. »
Au bureau, le lendemain matin, Agatha déclara.
« Jusqu'à ce que nous sachions précisément comment George a été tué, il me semble que nous pouvons difficilement commencer à enquêter. » Nous nous bornerons pour l'instant à traiter les affaires en cours. Je me charge du cas Callen. Mr. Callen désire obtenir la preuve que sa femme le trompe. Phil, vous m'accompagnerez avec votre caméra et tout votre matériel. »
Avant de partir, elle répartit les autres affaires entre les divers membres de l'équipe.
« Je me demande bien qui a assassiné George, » dit Phil,
quand ils se furent garés près de la maison des Kellen. Comme je l'ai dit, attendons l'autopsie et alors nous y verrons plus clair. Je demanderai à Patrick de réactiver ses anciens contacts policiers, dès que la police donnera les résultats. Tiens, voilà Mrs. Kellen qui monte dans sa voiture. J'espère que ce n'est pas juste pour aller faire ses courses cette fois.
Agatha au volant, ils suivirent Mrs. Kellen à une allure modérée. À la différence des précédentes expéditions, elle ne se dirigea pas vers le centre de Cirencester, mais s'engagea sur l'autoroute.
« Enfin du nouveau !» s'exclama Agatha.
« Ralentissez un peu, afin qu'elle ne nous remarque pas !» conseilla Phil. « Bien sûr, je sais qu'il avait pas mal d'aventures. »«
Qui ça ? Notre client, Mr. Kellen ?»«
Non, George Marston. »
« Agatha, vous avez failli emboutir ce camion, faites attention !»«
Mon George à moi ?»« Je vous raconterai plus tard. Si vous perdez la tête, nous perdons aussi Mrs. Kellen. »
Agatha revint à son volant, la mort dans l'âme et l'esprit sans dessus-dessous. Que George ait succombé au charme de Jessica Fordyce, elle pouvait le comprendre. Mais qui d'autre ?«
Donnez-moi un nom, » exigea-t-elle d'une voix rogue. « Tout à l'heure, concentrez-vous sur ce qu'il y a à faire. » lui rétorqua Phil.
Ils filèrent Mrs. Kellen jusqu'à Oxford. Elle alla se garer dans le parking de l'hôtel Randolph.
Continuez jusqu'à Gloucester Green, conseilla Phil.
Inutile qu'elle nous voie. Votre photo apparue dans les journaux, elle risque de vous reconnaître.
Le parc souterrain de Gloucester Green coûtait cher et ils perdirent de précieuses minutes à introduire pièce après pièce dans l'automate avant de reprendre en toute hâte le chemin de l'hôtel.
J'avais complètement oublié ces photos, se lamenta Agatha. J'aurais dû envoyer Patrick.
Attendez dehors pendant que je vais jeter un coup d'œil.
Phil commença par le bar et découvrit Mrs. Kellen installée dans un coin avec un jeune homme.
Mais si c'était son fils?
Avait-elle un fils? Se demanda Phil.
Zut, le dossier dans la voiture.
Il commanda une bière, alla s'asseoir et tira subrepticement un appareil photo miniature de son sac. Il les entendait rire et plaisanter. Phil jugea que Mrs. Kellen devait approcher de la cinquantaine, tandis que son compagnon n'avait qu'une vingtaine d'années. Elle avait un visage dur, outrageusement fardé et la bouche gonflée au collagène. Sous le regard de Phil, le jeune homme porta la main de Mrs. Kellen à ses lèvres et la baisa. Clic, une photo. Puis il se pencha en avant et l'embrassa sur la bouche.
Bingo, pensa Phil.
Et maintenant, pourvu qu'ils montent ensemble dans une chambre, nous la tenons.
À l'extérieur, Agatha faisait les 100 pas au soleil. Non loin de là, au mémorial des martyrs, un prédicateur brandissant une Bible haranguait un auditoire de 5 personnes au sujet de leurs péchés. Elle fut soulagée de voir réapparaître Phil.
« J'ai deux bons clichés d'eux en train de s'embrasser, » dit-il. « Et ils viennent de monter dans une chambre. Nous n'avons plus qu'à attendre et à suivre le jeune homme pour découvrir de qui il s'agit. »«
Un jeune homme ?» s'exclama Agatha avec amertume.
Il y en a vraiment qui ont de la chance?
Quelle chaleur! Je vois un peu d'ombre de l'autre côté de la rue. Allons nous asseoir sur les marches de l'Ashmoline en attendant.
Devant eux, les autobus se succédaient et les étudiants défilaient dans Bowman Street. Agatha alluma une cigarette.
C'est mauvais pour vos poumons,
la réprimanda Phil.
Je m'en fiche,
grinça Agatha.
Je présume que George était l'amant de Jessica. C'est le bruit qui court au village, mais on ne peut pas toujours s'y fier.
Qui d'autre ?
Des rumeurs sur Mrs. Glossop ?
Ce n'est pas possible ! Se récria Agatha presque au bord des larmes. Mrs. Glossop avait le même âge qu'elle, l'allure d'une citrouille et des lunettes à verre épais. Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenue ?
Je ne savais pas que vous y attachiez tant d'importance, se défendit Phil. Vous dites toujours que les commérages du village vous assomment. Je les ai photographiés avec mon appareil miniaturisé.
Qui ça ?
Kellen est son type, évidemment. J'ai l'autre appareil sur moi. Avec tous ces touristes partout, ils ne remarqueront rien.
L'après-midi se traînait, suffocant.
Tenez,
dit Phil en sortant un sac plastique d'une de ses vastes poches.
Mettez-y vos mégots. Vous allez finir par vous faire verbaliser, à force de les balancer comme ça par terre.
Agatha les ramassa et au moment où elle se redressait, elle entendit Phil annoncer.
Les voilà.
Mrs. Kellen et son soupirant apparurent. Il l'enlaça et l'embrassa passionnément. L'appareil de Phil cliquetait sans relâche, puis le couple pénétra dans le parking de l'hôtel.
Faut-il aller chercher la voiture ?
Interrogea Phil.
Attendez un moment, répondit Agatha. Ça ne m'étonnerait pas que ce garçon habite Oxford.
D'ailleurs, nous avons collecté suffisamment d'éléments pour Mr. Kellen.
Le jeune homme émergea seul et à pied du parking. Agatha et Phil se lancèrent sur ses traces. À longues enjambées souples, il fendit la foule de Corn Market, remonta High Street et franchit le portail de St. Botolph's College. Agatha entra dans la loge du concierge, un billet de 20 livres tout neuf à la main.
« Il me semble que je connais ce jeune homme qui traverse la cour d'un air si pressé. Qui est-ce ?»
Le billet changea de main et le portier jaillit de sa tanière pour examiner la cour verdoyante.
« Oh, c'est Mr. Richard Tripp, un de nos chercheurs !»«
Ah, moi je me suis trompée, mais merci quand même !» conclut Agatha. Ils regagnèrent Mussester, Agatha pour rédiger son rapport et Phil pour développer ses photos. Mrs. Ilston, la sœur de George, patientait dans le bureau d'Agatha.
« Je vous attendais, Mrs. Raisin, » expliqua-t-elle. « Je compte sur vous pour démasquer l'assassin de mon frère. J'ai trouvé vos coordonnées sur Internet. »«
Je ferai tout mon possible, » répondit Agatha. « Je vais devoir prendre quelques notes. Pourquoi votre frère a-t-il choisi de se fixer à Carsley ? Je ne lui ai jamais demandé. »
Après sa blessure et une phase de rééducation il y a 2 ans, il s'était installé à Lower Sidby, un village de l'Oxfordshire, où il s'est mis à faire des petits travaux de bricolage, du jardinage, de la menuiserie, des choses comme ça. J'adorais mon frère, mais je dois dire qu'il passait son temps à courir les jupons. Il a eu tellement d'histoires qu'il s'est attiré des inimitiés, alors il a déménagé à Carsley.
Comment as-tu pu te montrer aussi stupide ? Se fustigeait mentalement Agatha, tout en prenant note consciencieusement de ses informations. Toi qui te vantes toujours de ton intuition.
Pensez-vous, questionna-t-elle, qu'une de ses amantes de Lower Sidsby aurait pu le suivre à Carsley pour l'assassiner?
C'est possible. Connaissez-vous les noms de certaines d'entre elles?
D'une seule. Fiona Morton, qui se faisait appeler Fi. Complètement névrosée. Elle m'a rendu visite à Oxford en pleurant et en criant vengeance et a prétendu que George lui avait ravi sa virginité.
Elle a quel âge?
38 ans.
Disait-elle la vérité à votre avis?
Eh bien, elle était vraiment très quelconque et avait tout d'une vieille fille. Mais ce n'est pas impossible. George a tout nié en bloc avec vigueur, mais c'est à ce moment-là qu'il a décidé de partir dans les Cotswolds.
Agatha posa plusieurs questions supplémentaires, prit les coordonnées de Janet Ilston et Mrs. Friedman rédigea un contrat.
Faites le maximum, insista Janet en prenant congé. George était parfois exaspérant, mais personne ne mérite une mort pareille.
A-t-on déjà les résultats de l'autopsie ?
Pas encore. Ils ont promis de m'avertir dès qu'ils les auraient.